France Inter, franceinter.com.
CO2 mon amour, avec Gamard, dermocosmétique adulte bébé, certifié bio et 100% d'origine naturelle, en pharmacie et parapharmacie.
Bonjour à tous, heureux de vous accueillir dans cette émission qui empêche de polluer, de réchauffer en rond, mais qui n'empêche pas de spéculer en rond. Ça, non, c'est pas encore dans nos possibilités. Aujourd'hui, donc, notre assistante est Sophie Ledoré, je n'oublierai pas Jean-Christophe Pinaza, et puis Cédric Lalanne et Claudine Lapersonne nous accompagnent à la technique, et bien sûr, je n'oublierai pas Maïté Adam, notre réalisatrice. Une petite humeur en forme de devinette pour commencer. Qu'est-ce qui est rouge avec des bandes vertes, qui roule à 300 km/h, qui tourne au sans-plomb et consomme 75 litres au 100? Réponse, une Formule 1 de l'écurie Ferrari chaussée de ses jolis pneus verts pommes à l'occasion de l'opération Voiture Verte au Grand Prix du Mont Fuji ce week-end au Japon. Sauf que sensibiliser un pilote de F1 aux enjeux environnementaux, voyez-vous, c'est un peu comme vanter les mérites de la spéculation à un retraité américain dont le fonds de pension vient de rendre l'âme. Ou bien de convaincre nos députés que le lobby des radiateurs électriques n'est pas forcément le mieux placé pour décider de la politique de la France en matière d'économie d'énergie. Alors, virage délicat cette semaine pour l'écurie du Grenelle. Jean-Louis Borloo évite de justesse la sortie de route au niveau du Palais Bourbon lorsque le commissaire de course Patrick Ollier agite inutilement son drapeau jaune. Plus de peur que de mal et retour au stand. Vous me remballez le matériel, la bonus malus, efficacité énergétique, pesticides, etc. Et on verra bien donc la version du Grenelle 2 un petit peu plus tard. Autre lieu, autre mœurs au mondial de l'auto Porte de Versailles. Les constructeurs ont le triomphe modeste. C'est l'automobile, on le sait, qui fait tourner le monde. D'ailleurs, il suffit de regarder l'affiche du salon pour s'en convaincre cette année. Notre petite planète ravalée au rang de gadgets sur fond de pommeaux de vitesse cuir et métal a fait rêver les foules. Le phallus changement de vitesse a encore de l'avenir. Des foules d'ailleurs prêtes à payer le prix, hein. 25 milliards de dollars pour le Noël des constructeurs américains, 400 millions d'euros pour ceux de l'Hexagone, mais oui, parce qu'il n'y a pas que les banques en faillite dans la vie. Et puis, hybride, électrique, air comprimé, à hydrogène dans 20 ans, basse consommation, à faible empreinte écologique, c'est sûr, la voiture verte fait rêver, enfin disons la voiture moins sale, même si elle se fait surtout attendre. Alors on se console comme on peut en admirant les stands du salon équipés de jolies hôtesses très très courts vêtues. Et d'ailleurs c'est encourageant, car c'est bien la preuve que les constructeurs automobiles prennent leurs responsabilités et anticipent depuis longtemps le réchauffement climatique. Bref, quoi qu'en dise l'Union internationale pour la conservation de la nature qui a publié cette semaine sa liste rouge des espèces en danger, l'animal le plus menacé ce n'est pas le crocodile de Cuba, le lynx sibérique ou le golden boy new-yorkais, mais l'homo automobilus ordinarius, c'est-à-dire vous et moi. Quand nous montons dans nos petites voitures et que nous nous changeons tout à coup en prédateurs de l'environnement, bien malgré nous. Allez, tenez, pour terminer, une note positive. Qu'est-ce qui est rouge italien et qui roule aussi à 300 km/h? Eh bien oui, c'est le train à grande vitesse de la toute nouvelle compagnie ferroviaire fondée par Luca di Montezemolo, qui est le patron de Ferrari, pour reclasser ses pilotes de Formule 1 sûrement. Et oui, Milan-Rome en 3 heures sans une goutte de carburant. Alors dites-moi, et si la voiture n'était pas forcément l'avenir de l'homme, hein ? Alors aujourd'hui, c'est Jean-Marie Pell qui va nous rejoindre avec sa boîte remplie de chenilles processionnaires qui remontent les petites bêtes vers le nord. Et puis en fin d'émission, c'est Arnaud Gossemann, porte-parole de France Nature Environnement, qui nous fera un petit point lui aussi sur le Grenelle. Et notre thème du jour, eh bien on va rester quand même dans les voitures. Éric Lecointre, bonjour à vous.
Bonjour Denis Chessoux.
Alors vous êtes ingénieur à l'ADEME, l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie. Vous êtes en charge du secteur des déchets automobiles et des véhicules en fin de vie. Merci à nos amis de France Bleu Loire-Océan, donc à Nantes, qui vous accueillent, avec Stéphane Martin qui est à la technique aujourd'hui. Vous voyez, là, on fait vraiment développement durable. On vous a pas fait venir, évidemment, pas en voiture, ni même en train. On s'est dit, bah voilà, il est là-bas, en famille. On a une liaison formidable. Hein, c'est ça aussi l'avenir, hein, Eric.
C'est un peu ça, effectivement. Oui.
Alors, on va parler. On va peut-être pas, évidemment, vous faire rêver, parce que nous, on va s'intéresser à ce qui se passe lorsqu'une automobile est en fin de vie. Le mondial de l'auto, oui, mais quand votre voiture est mourante, que devient-elle? Qu'est-ce que l'on désosse? Quelles sont les filières? Qu'est-ce que ça représente, ces fameux, ce qu'on appelle les véhicules hors d'usage? C'est combien de... Enfin, voyons un petit peu le chiffre. On va juste donner, si vous voulez, dans le monde aujourd'hui, on a en gros 900 millions de voitures. On a 32 millions de voitures qui sont en France. Moyenne d'âge de ces voitures, à peu près 8 ans. Et les véhicules hors d'usage, qu'est-ce que ça représente, Eric Lecointre?
Alors, ça représente à peu près 1 500 000 véhicules par an. Donc c'est les voitures qui sont détenues par les particuliers, mais aussi par les assurances, les garagistes bien sûr, les concessionnaires. Donc ce sont des voitures particulières, mais aussi des camionnettes. Hein. C'est-à-dire que quand on parle de véhicules en usage, ce sont les deux catégories dont on parle, les voitures que vous avez, vous, que j'ai moi, que tout le monde a en général dans son garage, et les camionnettes de moins de 3 tonnes 5. Donc c'est ça qu'on appelle véhicules hors d'usage aujourd'hui. On a à peu près 1 500 000 de produits chaque année.
Et on en traite combien? On parlera de ces filières, mais on en traite combien à peu près?
Alors on en traite aujourd'hui un petit peu moins d'un million. J'expliquerai tout à l'heure pourquoi.
D'accord.
On a une existence de filières parallèles de traitement. On va le développer tout à l'heure. Donc on a à peu près 1 million de véhicules qui sont traités dans les filières dites autorisées aujourd'hui.
Bien, donc avec vous, on l'a compris, ça va être le thème de CO2 Mon Amour, on va dire le thème central. Que deviennent nos voitures donc, après avoir vécu merveilleusement sur les routes de France et d'ailleurs? Jean-Marie Pelle, c'est dans quelques instants. Et Ayo, eh bien, grâce à Emmanuelle Chupin, notre programmatrice, c'est tout de suite.
Is that really me? Look what I have done. This is not who I wanna be. I gotta face myself, gotta chase my soul, gotta free my mind, get back my glow. I got to go. Yes, I got to. Run, 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 run. For my soul, I better go, 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 go. Making sure I go slow. I got to run, 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 run for my soul. I better go, 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 go. Making sure I go slow, slow. Gotta free my mind. Gotta chase my soul. Gotta be myself. Getting strange. Guess I need a change. But I can't run away. No, I can't escape. I gotta face myself. Gotta free my mind. Gotta change my soul. Get back my glow. I got to go. Yes, I got to. Slow. I gotta go, 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 go. Making sure I go slow, slow. I gotta run, 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 run. Run for my soul. I gotta go, 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 go. Making sure I go slow, slow. I gotta run, 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 run. Run for my soul. I gotta go, 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 go. Making sure I go slow, slow. I gotta free my.
Run, 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 run for your soul. You got to go, 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 go. Making sure you go slow, slow. You got to run, 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 run. Run for your soul. You got to go, 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 go. Making sure you go slow, slow. Making sure you go slow, slow. Making sure you go slow, slow.
Eh bien, nous allons essayer de chanter après ce disque avec les chenilles et avec les papillons. Vous allez comprendre pourquoi. Bonjour Jean-Marie Pelt.
Bonjour Denis. Bonjour à tous.
Voilà, on va faire la chenille, c'est formidable. Alors, on va parler de la chenille dite processionnaire parce que cette sale bête est en train de remonter tout à fait tranquillement. Racontez-nous ce qui se passe.
Ben, elle est connue, la chenille processionnaire, parce qu'elle se déplace à la queue leu-leu,
oui.
Et que ça donne des files qui sont impressionnantes à voir. Ce sont des insectes tout à fait grégaires qui ne pourraient pas vivre tout seuls. Alors c'est une chenille qui reste très très longtemps chenille. Et qui devient papillon, mais qui ne dure pas longtemps en tant que papillon.
2-3 jours, pas plus.
Oui, absolument. Et encore, c'est un papillon nocturne, donc on ne la voit pas, cette chenille, quand elle s'est transformée en papillon. Elle vit surtout sur les pins, mm-hmm. qu'elle dévore.
Parce qu'au départ, c'est quand même un insecte méditerranéen.
Méditerranéen, mais, ouais. mais qui est très dévastateur, qui est ouais. très ravageur des pins. Si on fait un pique-nique en Méditerranée, et s'il dégringole une chenille... sur le sandwich, il vaut mieux pas prendre la chenille et ne plus prendre le sandwich non plus, d'ailleurs.
Oui, parce qu'elle a quand même des poils extrêmement toxiques, acérés. Il faut imaginer des petites flèches.
Hein, oui.
Et puis, dedans, il y a des petits sacs et hop, elle lâche son petit venin. Quoi.
Absolument. Et elle est très urticante et elle peut donner des allergies très, très fortes. Donc, c'est un animal à ne pas fréquenter du tout. Comme elle est méditerranéenne, eh bien, elle bénéficie, elle, alors pour le coup, du réchauffement climatique, et elle remonte petit à petit vers le nord. Elle n'est plus très loin de Paris. Elle est dans la forêt de Fontainebleau, déjà. Cette remontée vers le nord est sans doute favorisée par le fait que l'on plante beaucoup de pins noirs, mmh. qui est un arbre effectivement très intéressant, parce que ses troncs sont droits et qu'on peut par conséquent utiliser ses troncs pour de nombreux usages.
On en voit d'ailleurs aussi bien sur les ronds-points, sur les bords d'autoroute, dans les jardins publics.
Oui, alors quand ils sont comme ça disséminés, ça permet aux papillons de sauter d'un endroit à l'autre.
Oui.
Et ça lui fait en quelque sorte des relais entre deux forêts où il y a des pins. Lorsque le papillon est enfin sorti, il copule, le mâle et la femelle. Oui. La femelle fait en gros 200 œufs. Elle les fait sur une aiguille de pin. Et puis, au bout d'un mois, les œufs éclosent. Là, ils sortent les larves. Là, les larves se mettent dans des cocons soyeux qui sont très agréables à toucher. Croit-on ? À les voir. Il ne faut surtout pas les toucher. Et puis là, il va y avoir des séries de métamorphoses. Je crois qu'il y en a 5, des métamorphoses. Parce que les insectes, ils adorent prendre leur temps avant de devenir adultes. Nous n'avons qu'une seule adolescence. Imaginez que nous en ayons 5, des adolescents.
Au secours.
Voilà.
Ceux qui ont des ados nous comprennent. Ouais, au secours.
Ouais, ouais, ouais. Oui, non, mais c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça.
Ouais.
Et puis alors, c'est après s'être encoconné bien au chaud dans leur nid, pour passer l'hiver, qu'au printemps, elles ne se sentent pas pousser des ailes.
Non.
Mais au printemps, elles descendent de leur nid perché dans les arbres, et puis elles vont dans le sol. Elles choisissent un sol meuble, et puis elles restent dans le sol pendant plusieurs mois.
Alors, on comprend bien qu'on n'a quand même pas exactement fini de s'en débarrasser. On va rappeler, hein, effectivement, que c'est aussi un problème de santé humaine et même aussi un problème de santé vétérinaire. Parce que, donc, démangeaisons, plaies, il faut vraiment éviter que leur fameux poison atteigne les yeux, l'intérieur de la bouche et les poumons, parce que là, ça
oui.
peut être tout à fait catastrophique.
Oui.
On va d'ailleurs saluer, il faut le dire, le travail d'Alain Roch, qui est directeur d'un laboratoire de l'INRA, qui est près d'Orléans, qui travaille depuis nombreuses années aussi sur cette chenille processionnaire avec donc, toute son équipe. Et puis, on comprend bien en vous écoutant qu'il y a la progression en France de son aliment favori, qui est donc le pain. Donc,
oui.
si le pain noir remonte, eh bien,
oui.
la chenille va remonter aussi.
Oui.
Et donc, il y a aussi le réchauffement climatique.
Oui, tout à fait. Alors, c'est tous ces facteurs qui jouent évidemment de pair. Et puis, quand elle sort du sol, Alors elle sort sous forme de papillon. C'est assez amusant d'ailleurs parce que elle fabrique ses ailes dans le sol. Et comme le papillon est nocturne, elle sort et elle vole de jour. C'est donc très étonnant parce que c'est très vrai pour la plupart des insectes. La phase non parfaite, imparfaite, est souvent très très longue. Et la phase parfaite est souvent très très courte, raison pour laquelle autrefois les biologistes mettaient deux noms d'espèces différents, un sur la chenille et l'autre sur le papillon. Il y a eu comme ça des confusions innombrables avec les espèces animales qui ont plusieurs formes différentes. Mmh. Et en paléontologie, c'est le même phénomène. On confond souvent des pièces qu'on tire dans les fossiles parce qu'on croit que ça appartient à deux espèces différentes. On met deux noms différents. Et puis finalement, on se rend compte en comparant avec des animaux d'aujourd'hui que c'est la même espèce, mais qui passe par des phases intermédiaires morphologiquement extrêmement dissemblable.
Alors malheureusement, on va entendre parler encore de plus en plus régulièrement de cette chenille processionnaire parce qu'on estime qu'elle pourra être dans les jardins publics de Paris autour de 2025.
Oui, hein, mais même avant probablement. Même oui, parce que probablement avant, oui, oui.
Tout dépend de la hausse de la température.
Oui, absolument. Mais elle est plus loin, donc évidemment, ça sera proche. Mais la moralité de l'affaire, il ne faut jamais toucher. Oui. Jamais toucher. Et s'il y en a une qui vous tombe dessus, il faut l'éliminer avec délicatesse.
Merci beaucoup Jean-Marie Pell. Vous faites attention, vous levez les yeux donc avant de traverser.
Il n'y en a pas encore chez nous.
Il n'y en a pas en Lorraine
encore.
Non. Ah oui, il fait un peu plus froid. Hein.
Très froid.
À très bientôt la semaine prochaine. Au revoir Jean-Marie.
À bientôt. Au revoir Denis. Au revoir à tous.
Un matin comme les autres. Un réveil qui insiste. Je me réveille comme les autres. Automobile, mobile, automobile, mobile. Je rame comme un crocodile. Je rame comme un crocodile. Prisonnier dans une file. Prisonnier dans une file. Y'a plus de place dans les villes. Y'a plus de place dans les villes. Paris est englouti dans une file. D'Abidjan à Lagos, ce qui se met en ligne, c'est la dernière voiture, notre nouvelle culture. Projet progrès gay, 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 projet progrès gay. Tout le monde aime ton profil, mais quand tu traînes ton huile. Quand tu te faufiles, quand tu changes de fil, c'est vraiment difficile, es-tu vraiment utile? Automobile, mobile, automobile, mobile. Je rame comme un crocodile, je rame comme un crocodile. Prisonnier dans une file, prisonnier dans une file. Y'a plus de place dans les villes, y'a plus de place dans les villes. Un matin comme les autres. Je me réveille comme les autres. Projet progrès gay, 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 projet progrès gay. Dakar est englouti dans une fumée noire. D'Abidjan à Lagos, c'est qui se met en vie. C'est la dernière voiture, notre nouvelle culture. Qui sait, peut-être un jour, la mondialisation sera au musée, toutes les voies dégagées. Vive la liberté, on ira tous à pied. Automobile, mobile, automobile, mobile. Je rame comme un crocodile, je rame comme un crocodile. Prisonnier dans une file, prisonnier dans une file. Y'a plus de place dans les villes, y'a plus de place dans les villes. Automobile, mobile, automobile, mobile. Automobile, mobile. Je rentre comme un crocodile. Automobile, mobile. Prisonnier dans une file. Automobile, mobile. Y'a plus de place dans les villes. Automobile, mobile. Automobile, mobile.
Et oui, automobile mobile, donc c'était Oasis Diop sur France Inter, donc à la fois outil de liberté, on le sait, cette voiture, mais aussi outil d'aliénation. Alors aujourd'hui, on va faire vraiment de l'anti-rêve, on va dire ça avec vous, donc Éric Lecointe. Je rappelle que vous êtes ingénieur à l'ADEME, donc en charge du secteur des déchets automobiles et de ces véhicules en fin de vie. Pourquoi ? Parce que c'est le côté évidemment obscur du mondial de l'auto et de l'automobile, c'est-à-dire on soulève le tapis, cacher ce déchet que je ne veux pas voir. Donc on va un peu rentrer, on va dire, dans l'institut médico-légal de l'automobile. Voilà. Pourquoi c'est important, quand on est un particulier, pourquoi est-ce important et pourquoi c'est un déchet dangereux, en fait, une voiture ?
Avant tout, une voiture en usage est un déchet dangereux parce que ça contient des déchets dangereux. Une voiture, ça contient encore de l'huile usagée, ça contient des liquides de refroidissement, ça contient une batterie au plomb. Et tous ces déchets-là, pris individuellement, sont des déchets dangereux, ce qui fait que la voiture est un déchet dangereux. Donc on a une réglementation qui a été prise en 2003 et mise en application en mai 2006 et qui précise et qui impose quelque part aux propriétaires d'un véhicule en usage et bien de le remettre à un professionnel agréé par la préfecture. C'est-à-dire qu'on a fini le temps de Max et les ferrailleurs quelque part. On est rentré dans une ère un petit peu nouvelle et dans une... avec des professionnels maintenant du traitement des véhicules en usage.
Alors vous allez voir donc Éric Lecointre, parce que vous connaissez donc Patrick Poincelet, qu'on récupère beaucoup, beaucoup de choses. Et donc je vous propose donc ce reportage, donc tourné cette semaine chez lui dans le département de l'Aisne. Patrick Poincelet, là, une voiture vient d'arriver. Bon, elle n'est pas exactement en bon état parce qu'effectivement, on sent bien qu'il y a eu un gros accident, donc on ne va pas en faire grand-chose. Elle arrive là. Comment ça se passe ?
On va donc travailler la véhicule en deux postes. Le premier poste qui va effectuer la dépollution, ce qu'on appelle la dépollution supérieure, par une machine à aspirer. Et on va récupérer dessus tous les organes de carrosserie que l'on peut valoriser.
Alors tout ça, après, vous les triez, vous les gardez ?
Voilà, alors on va déjà les contrôler qu'ils sont en bon état.
Bien sûr.
C'est la première des choses. Et ensuite, eh bien effectivement, on va donc avoir un deuxième poste sur lequel, là, on va récupérer la partie mécanique et on va faire la dépollution par gravitation. Et là aussi, on va récupérer les moteurs, les pneumatiques, les cardans, les boîtes, les échappements, on va essayer de valoriser le maximum de produits en bon état et récupérables.
Alors ces gens-là, évidemment, on les appelait les casseurs, on continue toujours à les appeler ainsi, mais aujourd'hui, ils sont devenus démolisseurs et recycleurs. Alors je me suis rendu dans la société des pièces détachées d'occasion, donc de Patrick Poincelet, un homme qui connaît vraiment ce métier depuis très longtemps. On n'est pas très loin de Soissons, on est dans le département donc de l'Aisne, à Cramail, et on est dans une ancienne sucrerie, ça s'appelle la Râperie. Et c'est un coin, vous allez voir, il n'y pousse pas que des betteraves, mais aussi donc des cadavres de voitures, et tel le vautour, qui autrefois avait mauvaise réputation, mais qui est indispensable, le vautour avec le mouton, mettons, sur un cause de Lozère, eh bien, le démolisseur est un écarisseur de voitures. Il nettoie la bête et il en tire le meilleur. Et c'est important parce qu'il doit trouver le produit, après il le démonte. On peut bien sûr réemployer des pièces et maintenant, il y a donc une garantie d'un an sur ces fameuses pièces. On recycle et on fait durer aussi donc ces voitures. Alors, reportage, c'est chez Patrick Poincelet, dans le département de l'Aisne. Attention, ça fait un peu de bruit. Oui, ça fait un peu de bruit. Toujours un peu de bruit des voitures.
Notre travail à nous, il consiste à récupérer des véhicules en fin de vie. Un véhicule peut être en fin de vie de deux façons. Soit d'une mort accidentelle, donc véhicule provenant des compagnies d'assurance, soit en véhicule en fin de vie, donc qui meurt de sa bonne mort, donc mort de vieillesse. Pour nous, nous avons deux moyens de les récupérer, ces véhicules, soit par le réseau du constructeur, soit le détenteur qui apporte directement son véhicule dans la bonne filière. Comment trouver cette bonne filière ? Eh bien, c'est très simple. Aujourd'hui, vous avez un certain nombre de sites internet, entre autres, qui vous permet de retrouver ces entreprises capables de recycler votre véhicule dans des bonnes conditions et qui sont agréées par le législateur. Pour le reconnaître, c'est assez simple. À l'extérieur, il doit avoir l'obligation au niveau de sa façade, d'avoir son numéro d'agrément affiché. Et en plus, il doit vous remettre un document qui est incontournable, puisque c'est ce document qui vous déchargera de toute responsabilité, qui s'appelle un récépissé de prise en charge de véhicule en vue de sa destruction.
7 Peugeot, 5 vieilles Citroën, 4 Amicis, 4 Maurice Cooper, 4 Land Rover ou assimilés, 3 Fiat 500, une Ford Mustang, une Jaguar, une Matra, une Rolls-Royce, une Simca, une Volvo.
Là, on voit des blocs moteurs, on voit donc des pneus. En fait, vous désossez la voiture et vous essayez d'en retirer le maximum afin de la remettre dans un circuit.
C'est de valoriser le maximum de produits composant ce véhicule. Un véhicule, au départ, un véhicule hors d'usage, c'est un lot hétérogène sur lequel on va extraire le maximum de produits.
Alors, qu'est-ce que l'on fait? Là, par exemple, qu'est-ce que l'on extrait? Là, effectivement, je vois vos ouvriers qui sont en train de bosser sur une voiture qui est arrivée. Qu'est-ce qu'ils retirent, là?
Alors, ils auront deux actions qui seront conjuguées. Ils auront une action de dépollution, puisque chaque véhicule contient des produits polluants, tout ce qui est liquide. Donc, on a liquide de refroidissement, liquide de lave-glace, liquide de frein, les huiles, les carburants. Des produits aussi polluants qui sont solides, tels que la batterie, le pot catalytique et le filtre à huile qu'on doit extraire aussi. Donc, nous, démonteurs, vont faire une partie de dépollution, qui est une obligation par notre agrément, et en même temps, ils vont récupérer des pièces détachées qui vont servir soit pour le marché français, soit pour le marché de l'exportation, car je rappellerai que les recycleurs français sont les premiers exportateurs d'Europe de pièces de réemploi. Et on va récupérer aussi des pièces pour le marché de la rénovation, c'est-à-dire pour faire de l'échange de standards chez les constructeurs, entre autres, ou les équipementiers. Tous les produits qu'on va extraire de matière vont être triés aussi pour pouvoir aller dans les filières de valorisation matière.
Alors là, monsieur, expliquez-nous ce que vous faites. Vous êtes en train de désosser évidemment cette voiture. Ici, qu'est-ce que vous retirez là?
Au déshabillage, on enlève tout ce qui est carrosserie, donc aile, porte, pare-choc avant, pare-choc arrière. L'intérieur de la voiture, donc commodo, Neyman, compteur, commande de chauffage, radiateur de chauffage, ventilateur de chauffage.
Vous triez tout cela minutieusement?
Voilà, tout ce qui est bon, ça part ou pour le magasin, ou pour l'exportation.
Alors, quelles sont les pièces, je dirais, les plus importantes pour vous? Qu'est-ce que l'on récupère? Qu'est-ce que l'on valorise le mieux?
Aujourd'hui, tout. Puisque antérieurement, la pièce la plus faible, c'était le moteur. Aujourd'hui, les moteurs sont extrêmement fiables. Les véhicules, quelle que soit leur marque, quel que soit le modèle, sont des produits fiables. On augmente énormément les kilométrages. Par contre, les véhicules deviennent de plus en plus complexes avec ce qu'on appelle, nous, en jargon professionnel, des périphériques. La boîte de vitesse, l'alternateur, le démarreur, la pompe à injection. C'est ces éléments-là, tous ces éléments-là que l'on va vendre, qui vont permettre de valoriser le véhicule, puisqu'à chaque fois que l'on prolonge la durée de vie d'une pièce, eh bien, on n'a pas à construire une nouvelle pièce ni à détruire cette pièce. Et à partant de là, on économise du CO2.
Renault, l'automobile de France. Renault, rien ne vaut ma Renault. Renault, l'automobile de France. Renault, rien ne vaut ma Renault.
Vous, c'est pas votre métier, mais c'est évident que vous faites partie donc d'une chaîne. Là, on voit donc dehors ce que l'on ne peut plus récupérer, quoi, en quelque sorte, après.
Alors, nous sommes complémentaires. Le métier, ça consiste à un métier du recycleur de l'automobile qui va lui valoriser la pièce détachée. Et ensuite, on va donner le reste de la carcasse à un broyeur qui, lui, va valoriser les matériaux, les matières. Il va essayer de trier les matières. Alors, attention, son objectif à lui, c'est de récupérer les matières métalliques. Et à partir de là, ces produits-là iront en sidérurgie pour refaire et repartir sur des véhicules.
Patrick Poinceler, racontez-nous, il y a une directive européenne. Aujourd'hui, donc, la France n'est pas dans les clous. On vous demande quel chiffre et à quoi correspond ce chiffre?
Aujourd'hui, la France est dirigée, comme les autres États membres, par une directive européenne qui demande, donc, depuis le 1er janvier 2006, à ce qu'un véhicule soit recyclé à 85% de sa masse.
D'accord, il y a une tonne qui arrive, on doit en reprendre 850 kilos.
Absolument. Quand vous mettez votre véhicule dans la filière de recyclage, elle ne peut pas avoir de valeur négative. C'est-à-dire qu'au minimum, on vous reprendra votre véhicule gratuitement. Donc, à chaque fois, nous avons l'obligation de trouver l'équilibre économique, parce que je rappellerai aussi que la filière n'est pas subventionnée.
Oh, monsieur César, qu'est-ce qui vous arrive?
Eh bien, la voiture en panne, monsieur le mécanicien.
Alors, ça ne va pas?
Si ça allait, je ne serais pas venu vous chercher. C'est une bonne voiture, d'habitude elle marche très bien, mais aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'elle a.
Eh bien, nous allons voir. Avez-vous vérifié tous les organes?
S'il vous plaît.
Avez-vous vérifié tous les organes du moteur?
Ah, non.
Alors ce qu'on va faire, Patrick, là maintenant, on va sortir de votre atelier. Voilà, là c'est les jantes. Ah, vous faites des petits paquets, quoi. En gros, c'est ça, quoi. C'est ça, vous mettez ça dans des casiers, quoi.
Derrière, c'est de conditionner un produit, de partir d'un produit, d'un lot hétérogène, puisque c'est un lot et un véhicule, et de la décomposer pour en faire un produit fini, individuel, répondant aux besoins de chaque client.
Alors là, au fond, près du petit bois, on a donc cet immense tas qui est quand même tout à fait intéressant. Ah oui, ça fait quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, on a 6, 7 mètres de voiture. Et là, elles ont été totalement désossées. Vous ne pouvez plus rien en faire. Et donc, elles vont être... ensuite, entre les mains des broyeurs.
Ce qui intéresse le broyeur, c'est avant tout les métaux.
Oui, c'est ça. D'accord. Et en final, donc, ils revendent ça donc, à des aciéries.
C'est
qui, enfin,
alors voilà, après, derrière, ce le dernier, derrière on, c'est le circuit, hein, c'est le cercle, hein, oui. Puisque derrière, ces produits broyés vont aller d'un côté, en ce qui concerne les métaux ferreux, vont aller chez les aciéristes. Oui. En ce qui concerne les produits cuivre, aluminium, vont aller chez des affineurs qui vont refaire du fil de cuivre ou du carter moteur. Mais ça va reprendre, ça toujours une deuxième vie.
Voilà, donc reportage un peu bruyant, mais c'est normal, hein, c'est ça le métier. Donc aussi le démolisseur chez Patrick Poincelet dans le département de l'Aisne. Éric Lepointre, on rentre là vraiment dans ce que l'on souhaite, c'est-à-dire réduction des déchets, réutilisation lorsque c'est possible, et aussi recyclage. Là, on est vraiment effectivement dans une filière, je ne vais pas dire vertueuse, parce que faut pas exagérer, ces gens-là ne sont pas écologiques, hein, sont pas écologistes dans l'âme. Ils ont évidemment des comptes d'exploitation derrière, et c'est avant tout ça qui va les motiver, mais on est quand même dans ce système-là, on va valoriser au maximum.
Oui, tout à fait. C'est vrai que la voiture présente l'avantage d'être surtout métallique, c'est-à-dire qu'on peut la recycler facilement, contrairement à un emballage en plastique ou même à un produit électrique électronique en fin de vie, hein, constitué essentiellement de plastique. Donc la voiture, c'est plutôt facile de la recycler. Malgré tout, effectivement, comme l'a dit Patrick Poincelet, on est à 81% de taux de valorisation aujourd'hui. Il a fixé un objectif de 85%. C'est vrai que c'est bien celui-là qu'on aurait dû atteindre au 1er janvier 2006. On ne l'a pas atteint.
Ça, c'est une directive européenne. Hein.
C'est une directive européenne, ouais. Voilà, hein, qui a été transposée et reprise en droit français. Donc on n'a pas atteint ces objectifs de valorisation. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, dans les 81%, on a 14% à peu près de la masse de la voiture qui fait l'objet d'une réutilisation. Hein. Patrick Poincelet a très bien décrit ce qu'il faisait dans son entreprise, c'est-à-dire du démontage de pièces, avant tout, hein, pour alimenter le marché de l'occasion. Il y a 65% de recyclage, et là, c'est plutôt du côté des broyeurs que ça se passe, puisque ces entreprises-là broient la carcasse, hein, ce qui reste de la voiture une fois que certaines pièces ont été démontées.
Ils sont une cinquantaine, on va dire, en France,
voilà,
hein, les broyeurs.
Voilà, ce sont vraiment des sites industriels importants, oui. Hein, qui broient des voitures, mais qui broient aussi d'autres ferrailles de récupération. Vous allez dans une déchetterie, la benne à ferraille, ça arrive en général chez eux. Vous avez les produits dits blancs, c'est-à-dire l'électroménager aussi, qui arrivent chez ces broyeurs. Donc ce sont vraiment de grosses unités industrielles dont l'objectif, comme l'a dit Patrick Poincelet, c'est de produire des petits morceaux, hein, tout simplement de métaux qu'on va après revendre en aciérie ou en métallurgie.
Alors aujourd'hui, ils sont à peu près 1350, 1400, on va dire, démolisseurs qui sont agréés, hein, c'est ça, sur 2000. Les autres, il faut le dire, c'est principalement des chantiers sauvages. Donc cette profession-là est en train d'essayer d'un petit peu de faire le ménage. Mais c'est vrai que lorsque l'on voit le coût, par exemple, du cuivre, alors je crois que c'est autour de 1000, 1500 euros la tonne, je sais que ça varie sans arrêt. L'aluminium, lorsque vous avez par exemple deux plaques d'immatriculation, ça fait 400 grammes. Et l'aluminium, ça coûte très cher aussi à la tonne. Donc on récupère effectivement au maximum. Hein. C'est ça le métier. Quoi.
Oui, tout à fait. C'est de récupérer au maximum. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, comme il y a beaucoup de métaux dans les voitures, c'est très intéressant de les traiter. Effectivement, on a des prix à la tonne des différents métaux qui sont importants, qui ont été très importants au début de l'année, qui sont un petit peu redescendus depuis. Enfin bon, tout ça fait que finalement, le démolisseur a... face aux particuliers, peut lui proposer en général un prix d'achat de sa voiture en fin de vie. Hein. En général, c'est pas 0 euro, 0 centime, c'est quelques dizaines d'euros, voire quelques centaines d'euros si la voiture est relativement récente. Et tout ça, ça se lui... Pourquoi ? Parce qu'on a la possibilité de revendre des pièces sur le marché du réemploi. Et puis on a la possibilité, bien sûr, de revendre des métaux, bien évidemment, pour les recycleurs.
Alors pour différencier, on va dire, les bons des mauvais, vous avez lancé vous aussi une campagne de communication à l'ADEME, c'était au printemps dernier. Mmh. On se dit, bon, chez qui je vais aller? Alors, je crois qu'il y a une chose qui est très importante, c'est d'avoir le site www.recyclermavoiture.fr. C'est bien cela. Hein, donc,
c'est exactement ça, voilà. www.recyclermavoiture.fr, c'est effectivement un site que le ministère de l'écologie et l'ADEME ont créé à l'attention des particuliers. Alors, il s'agit avant tout d'informer les particuliers sur ce que c'est qu'une voiture, mm-hmm. hors d'usage, bien évidemment sur la façon dont la voiture est traitée. Il faut toujours être un petit peu pédagogique dans ces cas-là.
Bien sûr.
Et puis surtout, leur donner tous les éléments en main pour qu'ils puissent amener leur voiture vers le bon professionnel.
Vers le bon endroit. De toute façon, les deux entrées, on l'a compris, c'est soit effectivement les démolisseurs ou bien effectivement c'est les broyeurs.
Voilà, c'est ça. Donc, oui. Démolisseurs et broyeurs peuvent accepter et recevoir ces véhicules hors d'usage. Oui. Et émettre le fameux récépissé de prise en charge pour destruction que chaque particulier est en droit d'attendre quand il va chez ces professionnels-là. Alors c'est vrai qu'on a à côté de ces gens qui sont autorisés, qui font bien leur travail, on a à peu près, nous on estime ça, à peu près 1000 casses automobiles sauvages, on va dire, 1000 chantiers sauvages de démolition automobile.
Ils ne sont pas dans les clous, quoi, oui.
Et là, ceux-là, il faut vraiment les fermer. Et on compte sur cette communication pour dévier les voitures vers les professionnels agréés uniquement.
Alors on vous retrouve dans quelques instants, puis on va voir aussi quel est l'avis des constructeurs en amont. Qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils ne font pas dans ce domaine. Voici Sniff on the Tears.
De quitter leur voiture, il faut faire 300 mètres à pied, il faut aller chercher le pain, c'est l'effondrement. Ça s'appelle pas du handicap, ça ?
CO2, mon amour. Denis Chessoux.
Voilà, et avec des voitures donc usagées, avec vous donc Éric Lecointre, nous poursuivons donc ce voyage. Dans ce que l'on ne connaît pas, parce que les gens ne savent pas trop, effectivement, dès qu'on parle de déchets, on soulève le tapis, puis on ne veut pas en entendre parler, et derrière il y a une réalité, il y a aussi une réalité tout à fait économique. Donc on a compris quel était l'intérêt donc de faire tout cela. Vous me disiez qu'on n'était pas exactement dans les clous, c'est-à-dire que qui doit faire des progrès, c'est-à-dire à la fois les constructeurs, les démolisseurs, vous me parliez de ce chiffre de 81% donc de matière recyclée. Il faudrait déjà qu'on soit à 85%. Bon, on n'y est pas. Certains démolisseurs y sont, mais ce n'est pas la majorité. Et puis, d'ici 2015, il faudra arriver à 95% à peu près, c'est ça ?
Oui, c'est ça. D'ici 2015, 95%. Donc, un bond, hein, effectivement, dans l'atteinte des taux de valorisation. Alors, qui doit travailler ? Je dirais tout le monde. Démolisseurs... broyeurs et constructeurs, comme ils l'ont toujours fait jusqu'à maintenant. Hein. C'est une filière qui fonctionne depuis bien longtemps, toute seule sur le plan économique et en bonne intelligence. Donc il faut que ça se poursuive. Ce qui va compliquer un petit peu la donne, c'est le fait que dans les voitures, on a de plus en plus de plastique, bien évidemment, pour alléger les véhicules et puis pour limiter la prise d'embonpoint, on va dire, des voitures. Et les plastiques sont plus difficilement recyclables que nos métaux. Et là, effectivement, on ne sait pas très bien aujourd'hui qui doit faire quoi. Est-ce que c'est le démolisseur qui doit démonter quelques pièces volumineuses comme les pare-chocs, par exemple, ou le broyeur qui doit développer après des techniques assez poussées qui lui permettent de récupérer les petits morceaux de plastique qu'il a broyés, hein, pour les amener vers les entreprises de recyclage derrière. Donc on ne sait pas très bien qui doit faire quoi aujourd'hui. C'est en discussion. Je pense que les semaines à venir vont être mises à profit pour discuter de tout ça sous l'égide du ministère de l'écologie.
Je pense qu'on va parler un peu gros sous, parce qu'en général, c'est comme ça que ça se passe.
Oui, c'est un peu ça, oui, exactement.
Voilà. On se refile un peu le bébé, chacun fait son business dans son coin, mais enfin, bon. Alors, ça s'harmonise quand même petit à petit. Et moi, je vous propose d'écouter Jean-Philippe Hermine, qui est le responsable du déploiement de la politique de recyclage chez Renault, mais qui va aussi parler, je pense, au nom un peu de tous les constructeurs. Jean-Philippe Hermine, bonjour.
Bonjour, Denis.
Jean-Philippe, alors, quelle est la part de l'éco-conception dans une voiture, que l'on comprenne bien déjà au départ, en amont, avant que ça ne vienne donc un véhicule hors d'usage, quelle est la part de l'éco-conception ?
Alors bien sûr, on a une responsabilité, nous constructeurs, on doit concevoir ces véhicules, les véhicules d'aujourd'hui, pour que demain ils soient recyclés à 95%, valorisés à 95%. Et pour ça, on travaille sur différents niveaux. D'abord dans le choix des matériaux, hein, pour qu'ils soient compatibles avec les filières de recyclage qui existent. Dans l'association des matériaux entre eux, pour qu'ils soient séparables, triables, pour être recyclés demain.
Oui, parce que très très souvent, c'est le problème. C'est-à-dire qu'on a différents matériaux qui sont amalgamés. Quoi.
Tout à fait. Oui. On travaille aussi à cibler certaines pièces pour le démontage en vue d'un recyclage matière, puisque lorsqu'ils sont démontés monomatériaux, on a un meilleur recyclage. On transforme ça en matériaux beaucoup plus techniques, beaucoup plus valorisables. On travaille aussi à marquer les pièces, hein, on marque la nature des pièces, la nature des plastiques, les différentes qualités de plastique, voire les différentes qualités de métaux, d'aluminium, pour pouvoir indiquer aux opérateurs de la filière lesquels sont intéressants pour le recyclage, lesquels ont de la valeur pour rentrer dans les filières.
Alors, lorsque l'on parle de matériaux recyclés, qu'est-ce que ça représente dans une voiture ? Parce qu'on se doute bien que pour vous, ça va coûter moins cher de mettre du matériau recyclé. En plus, en termes de com, c'est pas forcément inutile. Mais surtout, je veux dire, concrètement, qu'est-ce que l'on trouve de recyclé dans une voiture, déjà, dans une voiture neuve ?
Alors, dans une voiture, il y a déjà beaucoup de matériaux recyclés, hein, puisque les aciers sont recyclés en totalité, une partie retourne dans le véhicule. Certains métaux, tels que le plomb des batteries, sert à faire de nouvelles batteries. Le cuivre est recyclé en partie, on peut s'améliorer de ce côté-là. Les platinoïdes, qui sont des métaux rares et qu'on trouve dans les pots catalytiques, servent à faire de nouveaux pots catalytiques. Et puis, ce qu'il faut recycler maintenant, le grand enjeu pour demain, pour atteindre ces taux de valorisation...
De 95% en 2015,
voilà,
hein, oui.
La réglementation, c'est de pouvoir recycler le plastique, les pneumatiques et le verre, et en particulier les plastiques, puisque vous savez que ce sont des matériaux qui ont pris une place de plus en plus importante dans le véhicule. dans notre recherche vers l'allègement, qui est très important pour la consommation.
C'est une bonne chose. C'est-à-dire qu'effectivement, nos voitures sont devenues obèses, on le sait. Donc, ce que l'on gagnait d'un côté en performance énergétique, et qui est absolument incontestable, était perdu avec du poids. Donc, vous allez
en partie
repartir sur un allègement. Vous mettez nos bagnoles au régime, là, quand même
pour... Ah oui. Les nouveaux modèles que nous avons sortis sont moins lourds que les précédents. C'est nouveau. Et puis, il y a une vraie politique de recherche d'allègement, mais qui va privilégier certains matériaux, et on doit s'assurer que ces matériaux-là rentrent bien dans des filières de recyclage également. Donc c'est un compromis qu'il faut faire entre tous ces impacts écologiques et ces exigences écologiques.
Pour le plastique, où est-ce que l'on en est? Ça représente quoi? Je ne sais pas, entre on va dire les tableaux de bord, entre les gaines, les pare-chocs, là il y a aussi sûrement des plastiques de nature différente, mais c'est quoi? C'est 8, 10%, 5%? Moi je ne sais pas, qu'est-ce que c'est?
Sur un véhicule d'environ 1200 kilos, le plastique représente entre 150 et 200 kilos.
Mais recyclé dedans.
Ah, alors, le plastique recyclé, lui, on s'efforce donc de l'intégrer dans les nouveaux véhicules et on atteint maintenant des taux de 15 à 17% sur nos nouveaux véhicules.
Et on peut monter jusqu'à combien?
On pense pouvoir monter jusqu'à 20% dans le futur.
Un grand merci à vous, Jean-Philippe Hermine, et puis à très bientôt. Merci beaucoup.
Je vous en prie.
Éric Lecointre, donc là on l'entend bien, une fois de plus, hein, réutilisation des pièces, recyclage de la matière, réduction des déchets, c'est ce que l'on devrait avoir aussi en tête, un peu comme tableau de bord, quels que soient les produits, hein, d'une manière générale. Là évidemment on a cliqué sur les véhicules hors d'usage, mais c'est un petit peu ça aussi notre cahier des charges, et nous en tant que citoyens.
Oui, tout à fait. On retrouve ces trois composantes, là, recyclage, réutilisation et puis valorisation énergétique. Hein,
bien sûr,
il faut aussi en tenir compte, même si ce n'est pas la panacée. C'est clair qu'on peut l'appliquer à d'autres produits, et notamment les produits électriques et électroniques en fin de vie. Hein, la filière a commencé il y a peu de temps. Moi, je voulais revenir sur ce que dit Jean-Philippe Hermine. C'est effectivement, lui, c'est la complémentarité entre les acteurs de la filière qui va faire qu'on va pouvoir progresser. Entre démolisseurs et broyeurs, les choix sont encore à faire, on ne les a pas tout à fait définis. Tout ça doit rester dans le cadre d'un équilibre économique qui existe aujourd'hui. Il ne faut pas tout casser, il ne faut pas forcément injecter des millions et des millions d'euros dans cette filière qui existe déjà et qui arrive à fonctionner toute seule. On a des nouvelles ressources économiques qui apparaissent, comme par exemple Jean-Philippe Hermine l'a évoqué, les pots catalytiques. Mmh. Les pots catalytiques contiennent des métaux précieux qui les rendent précieux quelque part.
Vous nous rappelez ce que c'est, le pot catalytique, parce que parfois les gens font pas.
C'est le catalyseur de la voiture, tout simplement. C'est-à-dire ce qui sert à diminuer les éléments toxiques des gaz d'échappement.
D'accord.
Que ce soit les hydrocarbures brûlés, les oxydes d'azote ou le monoxyde de carbone. Donc, ce pot catalytique usagé conserve une valeur importante et ça dégage une recette, une ressource économique supplémentaire qui peut éventuellement être mise à profit pour financer quelque part le démontage de pièces qui n'étaient pas aujourd'hui démontées pour alimenter le recyclage.
Ce que l'on sent bien, Éric Lecointre, c'est que à la fois d'ailleurs dans ce monde, dans ce changement de civilisation là que nous essayons d'accompagner, même si beaucoup de personnes n'en sont pas persuadées, mais peu importe, il y a maintenant, les constructeurs sont quand même sacrément aiguillés et c'est plus forcément la plus belle bagnole du monde, etc. Il y a toujours la part du rêve, mais c'est plus ça maintenant qui fait fantasmer les foules. Et aussi une mutation dans ces métiers dont vous parlez, c'est-à-dire qu'une il y a une mutation en amont avec les constructeurs et puis dans la manière d'être du consommateur et de l'automobiliste et puis aussi chez le recycleur.
Oui, tout à fait. Le recycleur, je le disais en tout début des émissions, c'est avant tout, initialement, un démonteur de pièces. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'il réussisse sa mutation pour démonter des plastiques, pour démonter des pneus, pour démonter éventuellement du verre, c'est-à-dire des choses qu'il n'a pas l'habitude de démonter. Donc il va falloir qu'il se forme, qu'il apprenne à reconnaître un bon plastique d'un mauvais, parce qu'il y en a des mauvais encore aujourd'hui sur les voitures. Et ça, c'est une véritable mutation qu'il faut arriver à faire, hein, dans l'avenir pour améliorer ces fameux taux de valorisation que Bruxelles nous demande d'atteindre.
Et que l'ADEME, bien sûr, va accompagner. Merci.
Exactement.
À vous, Éric Lecointre, de nous avoir vraiment éclairé sur ce domaine dont on parle quand même très très peu. Je vous signale que si vous devez acheter des pièces d'occasion, des clignotants, comme manifestement c'est de plus en plus en option dans notre société, n'hésitez pas, hein, parce que vraiment c'est quasiment du neuf pratiquement qu'il faut vendre. Non, c'est incroyable, les gens utilisent très très peu ça. Merci à vous, Éric Lecointre.
Je vous en prie.
CO2, mon amour, sur France Inter.
Et on va retrouver un garçon qui intervient, qui va en tout cas va intervenir assez régulièrement, qui s'appelle Arnaud Gossement. Arnaud, bonjour.
Bonjour Denis, bonjour à tous.
Arnaud, vous êtes avocat, mais vous êtes aussi militant associatif parce que vous êtes le porte-parole de France Nature Environnement. On va rappeler que cette fédération donc, regroupe 3000 associations de défense de l'environnement et qui vient donc de fêter ses 40 ans. On vous invite parce que vous avez participé, vous suivez de près ce Grenelle de l'environnement. En quelques mots, vous nous rappelez ce qui s'est passé il y a un an, s'il vous plaît.
Alors, il y a un an, l'ensemble des acteurs de la société civile qui sont concernés par l'environnement, que ce soit les syndicats, les associations de défense de l'environnement, bien sûr, les représentants de l'État, les élus locaux, se sont tous réunis, grosso modo de juillet 2007 à octobre 2007, pour essayer de faire le point et trouver un compromis pour la défense de l'environnement, pour sortir des guerres stériles et se mettre d'accord sur 268 engagements qui vont de la biodiversité au transport, à l'agriculture, se mettre d'accord, avoir une feuille de route et enfin faire progresser les choses.
Alors donc maintenant, le mettre en application, c'est autre chose, parce qu'évidemment, un certain consensus sur un certain nombre d'engagements. Quelques mesures vraiment fortes parmi les 268, sur quoi on va cliquer?
Alors notamment, vous savez que le logement est à l'origine d'une grande partie de nos émissions de gaz à effet de serre, à peu près 40%, et on a décidé de réduire ces émissions. En plus, c'est profitable pour le secteur du bâtiment et de fixer un objectif de 50 kWh. En 2012, on s'est aussi mis d'accord pour réduire de
moitié.
Ça veut dire
50 kWh par mètre carré et
exactement.
Par an.
Exactement. Et en 2012, sachant qu'aujourd'hui, on a plus de 240. On s'est aussi mis d'accord pour réduire de moitié en 10 ans l'usage des pesticides dans les champs, faire 2000 km de ligne TGV, interdire la mise sur le marché des ampoules à incandescence en 2010, et puis également développer l'agriculture biologique qui en a bien besoin.
Alors ça, oui, parce que l'agriculture biologique, c'est au niveau de la surface agricole utile. Aujourd'hui, c'est
2-3%.
2-3%, oui, donc on va essayer de passer de 6-8-10, quoi, à peu près.
Ça hein, paraît pas beaucoup, mais c'est déjà plus du double.
Ouais. Alors, depuis un an maintenant, où en est-on? Qu'est-ce qu'on attend?
Alors, il ne s'est pas rien passé depuis un an. D'abord, on a beaucoup travaillé, parce que pour faire la révolution écologique, il faut beaucoup se réunir, malheureusement. Ouais. Et puis quand même, on a interdit les OGM dans les champs, rappelez-vous. On a également interdit un projet de mine d'or particulièrement polluant, le projet Cambior en Guyane. Et puis, le fameux bonus-malus sur les voitures, qui a quand même permis d'inverser le marché et de donner envie aux Français d'acheter des voitures un petit peu plus propres. Il n'y a pas que des bonnes nouvelles, malheureusement.
Le passif, qu'est-ce que ça fait?
Le passif, c'est notamment des projets irrationnels qui étaient en cours avant et puis qui ont continué leur petit bonhomme de chemin. Je pense par exemple à l'aéroport international de Notre-Dame-des-Landes.
Qui est près de Nantes.
Donc. Oui, dont on n'a absolument pas besoin. Et puis cette fameuse autoroute Pau-Longron aussi, vous savez, qui,
la 65, oui.
Qui va écrabouiller le fameux Vison d'Europe, qui est une espèce pourtant menacée.
Bon, alors nous avait Arnaud annoncé de grandes lois sur l'environnement. On en est où?
Alors là, cette semaine, on a eu droit à la première grande loi post-Grenelle, le projet de loi Grenelle 1. Alors, il y en aura deux. Le projet de loi Grenelle 1, c'est une grande loi d'objectif, un petit peu imprécise, mais qui permet au Parlement de s'associer au Grenelle de l'environnement et de fixer des grands objectifs, cinquantaine d'articles. Et puis derrière, il y aura une loi Grenelle 2, j'espère, fin début 2009. Cette fois-ci, avec des mesures concrètes qui vont changer la vie des Français, je l'espère aussi.
Alors, on va parler aussi quand même de quelque chose d'important, ce sont les déchets. Donc, on n'aime pas voir tout ça, on vient de parler aujourd'hui donc des véhicules hors d'usage. Illustration concrète donc dans ce Grenelle de l'environnement, parce qu'on a donc des lois, des décrets, des textes. Bon, tout ça est intéressant. Mais si je me mets moi à l'instant donc à la place de nos amis auditeurs, je me dis, qu'est-ce que ça change concrètement? Est-ce que le Grenelle, après tout, c'est pas une grande messe, une opération politique?
Alors pas du tout, et j'espère vous démontrer le contraire. C'est vrai que les déchets, c'est le sujet brûlant. Et d'ailleurs, c'est tellement le sujet brûlant qu'on n'a même pas fini la réunion sur les déchets avant le grand discours de Nicolas Sarkozy devant Al Gore, rappelez-vous, le 25 octobre. On a fini le 20 décembre. Et alors, il faut savoir que les déchets aujourd'hui en France, pour vous donner quelques chiffres et pas trop, chaque habitant, chaque année, produit 360 kg de déchets. Et si on regarde pour une famille de 4 personnes, chaque année, on produit l'équivalent d'un 4x4 par famille en équivalent déchets. Bref, tout ça pour vous dire qu'on produit beaucoup trop, que c'est vraiment nécessaire de réduire. Et on s'est fixé un objectif, réduire de 5 kg par an et par habitant sur les 5 prochaines années le volume des déchets produits. Mmh. Alors, ça paraît rien, mais c'est très ambitieux puisque actuellement, chaque année, on en produit de plus en plus. Alors, le problème, c'est de savoir comment on va faire.
Comment on fait, oui, effectivement. Donc, la fameuse taxe pique-nique, là, vous savez.
Oui, alors on l'a un peu caricaturé, cette taxe pique-nique. En réalité, c'était même une proposition des associations. Pour tout vous dire, que je suis un petit peu triste qu'on l'ait abandonnée. Ça s'appelait l'éco-participation sur les produits fortement générateurs de déchets. C'était la seule taxe qu'on encourageait de frauder. Pourquoi? Parce que c'était une taxe qui frappait des produits, comme par exemple les assiettes, où on avait le choix. Donc, la taxe portait sur l'assiette en carton, idiote et au contraire inciter à l'achat de l'assiette en carton recyclé qui, elle, permettait justement de faire du bien à la fois à votre porte-monnaie et à la fois à l'environnement. Alors, on s'est mis d'accord quand même sur un certain nombre de mesures fiscales pour encourager d'abord la prévention du déchet, parce que le bon déchet, c'est celui qu'on ne produit pas, et puis pour encourager aussi le recyclage. Alors, par exemple, il y en a marre des décharges et en plus, les habitants n'en veulent plus. Alors, on va augmenter la taxe sur les déchets qui vont arriver dans les décharges de manière à les orienter vers les filières de recyclage. Pareil pour l'incinération. Les incinérateurs sont d'immenses aspirateurs à déchets. Donc, on va demain, par la fiscalité, mais aussi par une information des élus locaux, faire en sorte que les déchets seront moins orientés vers les incinérateurs. Il faut aussi faire de l'éducation à l'environnement.
Non, mais c'est bien de le rappeler qu'au départ, ce n'est pas une unité de valorisation énergétique, comme on nous l'a dit. Aujourd'hui, un incinérateur, c'est la conséquence, mais ce n'est pas le but. Et le problème, c'est qu'on a eu un surdimensionnement pendant très longtemps des incinérateurs. Donc après, évidemment, il faut les nourrir.
Alors, l'idée qui a été longtemps défendue auprès des élus locaux, qui ont à mon avis été induits en erreur, c'est de dire les déchets, c'est pas si mal que ça, ça permet de faire de l'énergie et de la chaleur. Et donc, acheter des incinérateurs, faites-en le plus possible.
En réalité, il y a 60% de nos déchets qui sont des déchets humides, donc on n'a pas un bon rendement dans les incinérateurs français. Mais bon.
De plus, mais surtout, les incinérateurs appellent les déchets, puisque dans les contrats qui lient les élus locaux avec les opérateurs, il y a des clauses qui assurent aux opérateurs un tonnage minimum de déchets chaque année.
Donc on n'a pas intérêt à trier.
Bah, pas du tout, au contraire, ça fait marcher les incinérateurs. Et dit-on l'économie. Mais quand on voit la crise économique actuelle, on se dit qu'il faudrait peut-être changer nos réflexes. Donc en réalité, notamment, ce genre de disposition dans les contrats, ça sera interdit. Un opérateur ne pourra plus dire aux élus locaux, s'il vous plaît, chaque année, vous me donnez tant de tonnes de déchets pour mon incinérateur, pour mon four, ça sera fini.
Merci à vous Arnaud Gosseman et puis à bientôt donc pour une prochaine séquence on va dire d'actualité dans CO2 mon amour. La semaine prochaine eh bien je vous emmènerai cueillir des champignons. Ce sera un univers beaucoup plus calme. Nous irons en Touraine. Jean-Marie Pelt nous parlera aussi des champignons amoureux et on retrouvera Nathalie Fronterelle pour une actualité de l'environnement.